Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Henri Ratimov, bonjour.
Bonjour Solange.
Vous venez de faire paraître aux éditions de l'Antilope un livre, L'arrière-saison des Lucioles. Alors, vous présentez un petit peu au petit-fils des migrants juifs polonais, arrivés dans les années 1900, arrivés et dans les années 1920 dans la capitale française. Vous devenez professeur de lettres à Paris dans les années 70 et jusqu'en 2008. Vous avez tenu la page des livres du magazine des Juifs laïcs de Belgique Regard depuis 1996. Vous avez une fille avec Annette Viviorka qui est très connue. Alors ce livre passionnant, L'arrière-saison des Lucioles, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà éclairer ce titre ?
Oui, je peux essayer. Alors, l'arrière-saison, disons qu'il y a deux choses. Il y a l'arrière-saison et les Lucioles. L'arrière-saison, c'est en général l'automne, hein, et même la fin de l'automne. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu crépusculaire, l'idée de fin, quoi. Et les Lucioles, comme vous le savez, c'est des petites bestioles comme ça, qu'on trouve l'été plutôt, qui émettent des signaux lumineux pour se reproduire, je crois bien, et on voit ça l'été. Et puis alors, ce sont des insectes éphémères, qui ne durent qu'un moment, et puis ils disparaissent. Alors, arrière-saison des Lucioles, ça redouble au fond l'idée un peu pessimiste d'une fin, de quelque chose qui se termine. Oui. Alors c'est pas très engageant pour d'éventuels lecteurs, mais c'est quand même, c'est pour indiquer une tonalité générale du livre qui est, me semble-t-il, à moi, l'auteur, de l'ordre de la mélancolie, même si ça n'empêche pas une certaine distance parfois, un côté ironique, ça c'est mon style en général, hein. L'ironie à l'égard des autres, à l'égard de moi-même, à l'égard de tel ou tel personnage qui me semble un petit peu prétentieux que je rabats. Bon, alors, voilà, il y a le double mouvement, le côté mélancolique, crépusculaire, mais avec ces petites, parce que les lumières qu'émettent les Lucioles, c'est au fond à double tranchant. À la fois, il y a le côté insecte éphémère, ça ne dure qu'un instant, et en même temps, c'est quand même de la lumière dans la nuit. Alors, voilà, c'est réversible, c'est-à-dire qu'on peut comprendre, et il faut comprendre les deux choses, à la fois le côté éphémère, nocturne, et en même temps lumineux. Mmh. Parce qu'on aime bien traverser comme ça des jardins, je ne sais pas si ça vous est arrivé, oui, de traverser des jardins ou des bois, à la campagne, et puis de tomber comme ça sur des lucioles, et c'est toujours quelque chose d'un petit peu réjouissant. D'avoir ces petits signaux lumineux autour de soi. C'est quelque chose de comme lorsqu'on rencontre la première neige, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, moi je trouve que c'est assez réjouissant et assez beau.
Alors moi, je vais retenir cette dernière interprétation, parce que je suis quand même là, moi, le lecteur. Et alors, j'ai eu l'impression d'un livre avec des jaillissements par moments des résurgences, des pulsions de retrouver l'histoire de des origines, l'histoire de nos parents. Il y a comme ça des mouvements vitalisés qui s'inscrivent de façon très positive. Alors, ce livre commence, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, par une promenade et des portraits divers de promeneurs. Ceci est tout à fait léger, charmant, des demoiselles qui attendent le bus en même temps et vous croquez leurs portraits. Il y a ensuite des références parfois à Roland Barthes avec cette insignifiance légère du langage. C'est extrêmement délicat. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette expression « insignifiance légère du langage » ?
Oui, alors, Roland Barthes est en effet une figure intellectuelle qui a compté pour moi, et qui compte toujours d'ailleurs. Quand j'étais plus jeune encore, c'était la figure de Sartre, alors qui a bien déchu aujourd'hui, parce que plus personne ne se réfère à de tels intellectuels qui ont été compagnons de route du Parti communiste. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est... Bon, comme je dis à plusieurs moments dans mon livre, c'était une autre époque. Je crois que quand même Roland Barthes dure, sa notoriété, son prestige est encore vivant parmi les étudiants, par exemple. Hein. Alors, cette belle formule qu'il a trouvée, l'insignifiance légère du langage, c'est ça, j'ai pas l'expression sous les yeux, mais je crois que c'est quelque chose comme ça, qui veut dire tout simplement le bavardage. Alors, il y a un bavardage amoureux, c'est de ça qu'il parle, mais il parle plus précisément du bavardage qu'il avait eu avec sa mère, lorsqu'elle était encore vivante, évidemment, et maintenant, il regarde une photo et il constate, enfin, il fait l'expérience de la mort de sa mère en regardant cette photo. Et il se souvient de leurs conversations. C'était pas du tout des conversations intellectuelles, c'était pas du tout des conversations savantes. C'était une sorte de bavardage léger et suave. Hein, je n'ai que ce mot qui me vient là. C'est-à-dire quelque chose dont on se souvient, et d'ailleurs peu de gens se souviennent, on se souvient d'une discussion qu'on a eue avec quelqu'un, on se battait, on s'envoyait des arguments, etc. Mais le pur bavardage tranquille et amoureux, on s'en souvient pas, parce que ce n'est pas des conversations très profondes, c'est simplement, ça témoigne lorsqu'on s'en souvient, en revanche, ça témoigne d'une sorte de période amoureuse. Bon, Barthes, il s'agissait de sa mère, remarquez, il pouvait très bien être amoureux de sa mère lorsqu'il était enfant. Mais dans mon récit, ça renvoie plutôt à un bavardage amoureux dont on peut avoir la nostalgie, c'est-à-dire quelque chose de serein. C'est pas fréquent. C'est-à-dire que la relation amoureuse, elle est parfois émaillée de conflits ou de ressentiments ou de rancœurs ou de jalousie, enfin on ne sait quoi. Mais le souvenir d'un moment privilégié, amoureux et serein, ça nous reste comme une sorte de nostalgie. Même si mon livre, je ne sais pas l'impression que vous avez eue vous-même en tant que lectrice, mais pour moi, c'est pas vraiment de la nostalgie, c'est plutôt un désir d'inscrire des personnes que j'ai bien connues ou que j'ai seulement croisées, mais qui ont compté pour un moment qu'on a échangé, enfin, pour un moment d'échange et d'amitié ou d'amour ou de relations filiales, comme pour mon père, par exemple, dont je parle pas mal.
Alors, vous parlez aussi des cahiers du chemin avec oui. François Veillergans et oui. Françoise Verny, la tonitruante oui. et très oui. remuante Françoise Verny, qui était promue à de grandes charges éditoriales chez Gallimard à un certain moment.
Oui, exactement. Alors, Oui, parce que je reviens voilà sur un moment de ma jeunesse lorsque j'ai publié mes tout premiers livres. Ça remonte au début des années 70. Vous voyez que l'âge que je peux avoir. Donc mon premier éditeur s'appelait Georges Lambrix et il dirigeait une revue qui était assez célèbre à l'époque, qui s'appelait Les Cahiers du Chemin, et puis une collection chez Gallimard, Le Chemin. Et donc c'est là que j'ai publié la première fois. Et alors, sa femme et lui recevaient près de chez Gallimard, à Saint-Germain-des-Prés, tous les mercredis, quelques membres de cette collection. Et alors moi, j'étais très jeune, hein, j'avais 24 ans, j'étais très intimidé par ces noms un peu prestigieux. Mais je me souviens de cela parce que, évidemment, j'étais tout jeune, j'étais plein de fierté, enfin, de faire partie de ce petit cénacle. Et puis la vie nous a séparés, mais je suis resté assez ami avec quelques-uns de ces gens-là, dont par exemple Henri Méchonic, qui a été un grand professeur et un poète et un théoricien et un linguiste, et puis Michel Chailloux, qui était un écrivain, un romancier. Donc c'est des amitiés qui sont restées depuis ce temps très lointain aujourd'hui. Et alors j'en profite pour faire un bond de 10 ans.
De 10 ans, en 1980, oui.
Voilà, où des jeunes gens se sont rencontrés, donc j'avais plus 20 ans, mais j'avais dans la trentaine.
Gauchisants,
de ma génération se sont rencontrés, un petit peu par hasard, sous les auspices de quelqu'un qui était journaliste à l'époque, qui s'appelle Luc Rosenzweig, qui est hélas décédé maintenant, qui a voulu faire une revue juive. Alors, une de plus, parce qu'il y avait eu déjà, depuis la fin du 19e siècle, des revues juives. Il y en avait en Pologne, il y en avait en Allemagne, bien sûr, il y en avait déjà en France et aux États-Unis, en Angleterre, etc., etc. Et alors je me suis dit, et puis à l'époque, il y avait plein de romans juifs qui paraissaient, et des essais, enfin tous les mois, il y avait 4-5 romans à thème juif, et moi je me disais, il y a une sorte d'école là française de la littérature juive qui apparaît avec plein de jeunes gens, qui aussi bien séfarades qu'ashkénazes, et j'étais vraiment enthousiaste, et on était un certain nombre comme ça. Donc on a créé une revue qui s'appelait Trace, qui a duré quelques numéros, c'était une période assez enthousiasmante.
Alors, vous étiez en fait un gauchisant finalement, c'est des trentenaires gauchisants en 1980, et ce groupe dont vous avez parlé, qui a été suscité par Luc Rosenzweig, et que l'on définissait, ce monsieur, on le définissait comme juif professionnel. C'était un petit peu fâcheux quand même.
J'en ai connu un autre comme ça, plus âgé, qui s'appelait Henri Boulafco, je ne sais pas si ce nom vous rappelle quelque chose, il animait le cercle Bernard Lazare à Paris, la Chomère à Zahir, etc., juif sioniste de gauche. Alors tous ces gens, vous dites gauchisants, ben oui, parce que nous avions 20 ans en mai 68, donc qu'est-ce que vous voulez que... on va pas être du côté des CRS, plutôt du côté des étudiants que nous étions, en révolte contre une société très, très rigide, etc. Donc nous étions engagés. Alors, certains dans le maoïsme, d'autres dans le trotskisme, d'autres restaient anarchistes, etc., etc. Mais 10 ans plus tard, donc années 80, c'était fini tout ça. Il y a eu une sorte d'échec, quoi, de cet enthousiasme qui a duré 2 mois, avril, mai et juin, en fait 3 mois. Et puis après, c'est retombé. De Gaulle est revenu, Pompidou, et vous connaissez la suite. Pourquoi à ce moment-là ? Alors il y avait eu la guerre des 6 jours quand même qui a beaucoup compté, et notre génération est revenue, alors je parle de Teshuva en effet, alors c'est un peu excessif parce que c'est pas une Teshuva religieuse, c'est un retour quand même à une identité. La question se posait à l'époque, on partait comme ça d'un... d'un engagement gauchiste et universaliste, et 10 ans plus tard, on redevenait juif, comme si on avait cessé de l'être. En fait, on n'avait pas cessé de l'être, mais on avait mis ça un peu de côté, et même nos parents, pour parler des miens par exemple, avaient, semble-t-il, mis ça de côté, mais en fait, pas du tout. C'est dans mon père avait été communiste dans les années 50, il était issu de la résistance juive communiste, ce qu'on appelait l'IFTP-MOI, donc évidemment, moi je suis né là-dedans, quoi. J'ai baigné dans ce stalinisme juif bontain, avec un journal qui s'appelait la Neue Presse, la Nouvelle Presse, qui n'existe plus, je crois bien, avec un local qui était le 14 rue de Paradis, voilà, chaque mouvement juif avait son local, son drapeau, son journal, son mouvement de jeunesse, ses patronages et ses colonies de vacances. C'était très très vivant, quoi. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, parce que je suis un peu écarté des grandes routes, mais c'était très 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 effervescent. Alors, Benny Lévy, Normal Sup, agrégé de philo, maoïsme, alors marxiste-léniniste pur et dur, il est redevenu. Alors lui, il a fait une vraie teshuva, voilà. Mais il était un peu plus âgé que nous, hein, faut dire. Alors, voilà, on redevenait juif et on cherchait, comme on n'avait pas de référence vraiment juive au sens religieux, on cherchait on cherchait à comprendre ce que nous étions. Donc il y avait beaucoup d'écritures autobiographiques à l'époque. Et on le voit dans beaucoup de romans, aussi bien séfarades, de juifs de Tunisie, du Maroc, etc., et de juifs ashkénazes polonais, tout ça faisait effervescence. C'est pour ça qu'il y a eu cette revue Trace, dont je garde un petit peu la nostalgie.
Alors en fait, vous êtes revenu au monde de vos pères, que vous ne connaissiez pas, donc il vous fallait la parole de vos pères. Alors quel était ce monde? En fait, vous étiez voué à leur mémoire, à celle du shtetl, du mela, du ghetto, que vos pères avaient quitté, et dont, très curieusement, vous aviez la nostalgie.
Oui, exactement. Alors, c'est une nostalgie complètement imaginaire, complètement mythologique, parce que je ne vois pas un juif tunisien regretter la vie dans la Hara de Tunis, comme le dépeint Albert Memmi. Personne n'a la nostalgie de ça, parce que c'était une vie très pauvre. De même, personne ne regrette le Mella du Maroc, de Fès ou de Casablanca. Et de même, regretter le Shtetl. Le Shtetl est un endroit où, très très pauvre, très misérable. Alors très religieux certes, avec un vrai peuple uni, malgré quelques différences bien sûr, mais de ça on peut avoir la nostalgie. C'est-à-dire que la République française, comme vous savez, elle est très assimilatrice. C'est pour ça d'ailleurs que les juifs communistes s'y trouvaient bien. Et d'ailleurs, les juifs en général s'y trouvaient bien. Hein. Mais voilà, l'histoire a changé et nous avions, nous, de façon un peu mythologique, encore une fois, la nostalgie du Shtetl que nous n'avions pas connu et qui n'existait plus. Mm-hmm. Voilà, je veux dire, la Shoah était passée par là et donc on avait cette double souffrance de... comment dire, d'être le produit de gens qui étaient témoins ou victimes de la Shoah, et de grands-parents ou de parents qui avaient quitté la vie juive traditionnelle. Donc comment revenir à ça? On ne peut pas revenir, on peut simplement écrire, voilà. On peut le faire sous la forme de littérature, ou de films, ou de peinture. Mais pas plus. On a beau retourner en Pologne, il n'y a plus rien. Alors, c'est vrai que, par exemple, pour les juifs tunisiens, c'est un peu différent. Parce que vous retournez en Tunisie, ou pour les juifs marocains, c'est pareil, et vous trouvez le pays, quoi, c'est le même pays. Mm-hmm. Sauf qu'il n'y a plus de juifs, mais ok, mais c'est le même pays. Si l'on retourne en Pologne, ce n'est plus le même pays, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. sauf peut-être un petit folklore qui reste à Cracovie, mais tout à fait artificiel et commercial d'ailleurs.
Henri Ratzimoff, dans votre livre « L'arrière-saison des Lucioles », vous dites que vous aviez renoué les fils que l'histoire avait coupés avec rite, langage, lieu, toute une mythologie que vous avez adoptée avec exaltation. Donc exaltation, c'est ce qui explique cette envie d'écrire, d'ancrer ce sentiment dans des créations artistiques, littéraires. Cette exaltation, c'est bien la force de vie que j'ai vue dans ce livre.
Oui, c'est-à-dire que tout ce que je viens de vous dire, c'est un pan de mon histoire. L'autre pan étant, non moins important, mon désir très précoce d'être écrivain. Donc j'ai voulu être écrivain dès que j'étais, lors même de mon adolescence. Et donc j'ai réalisé ça un peu plus tard, et puis je n'ai pas cessé d'écrire. J'ai écrit une trentaine de livres, donc c'était ça mon désir. Et à un moment, c'est précisément le moment de la revue Trace, donc les années 80, où les deux choses, me semblait-il, pouvaient coaguler. C'est-à-dire l'instance juive et le désir d'écrire. Mais j'étais pas le seul dans ce cas-là. Nous étions quand même un certain nombre à vouloir écrire et en même temps à vouloir témoigner de notre judéité. J'en reviens encore à Mémy et à qui je rends grâce d'avoir inventé ce terme de judéité que Shmuel Trigano d'ailleurs reprendra dans son essai le récit de la disparue. La judéité, c'est-à-dire que ce n'est pas le judaïsme. Le judaïsme, mes parents étaient athées, je suis encore aujourd'hui athée. Je suis un juif athée. Bon, je ne suis pas le seul. Mais par contre, le judaïsme en tant que corpus religieux m'est relativement étranger. Je dis relativement, hein, pas totalement quand même. Par exemple, j'aime beaucoup les soirées de Shabbat, ça m'émeut, ça me touche beaucoup, et les prières juives. Mais le terme de judaïté, c'est le sentiment d'appartenance au peuple juif en épousant son histoire, en prenant en charge son histoire, son passé et sa position très ambiguë dans la société environnante. Et ce terme de judaïté résume un peu cette position-là, ce positionnement, je dirais. Et c'est très bien que Mémy, d'ailleurs ça ne pouvait être que Mémy qui a beaucoup réfléchi sur la laïcité, sur le retrait par rapport au judaïsme officiel, lui qui vient d'une extraction sociale très très modeste. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup, beaucoup intéressé. La statue de sel, par exemple, est un merveilleux livre où je me reconnais. D'ailleurs, à l'époque, il y avait les combats, vous savez, en Israël, il y avait les panthères noires, etc., qui étaient plutôt des juifs marocains, qui se sentaient, à juste titre, exclus de la société ashkénaze travailliste de l'époque. Et en France, on répercutait un peu cet antagonisme. Mais aujourd'hui, bon, c'est fini. Hein, mais au fond, je me suis aperçu sans tarder que nos destins étaient très proches. Sauf que chez les ashkénazes, il y a ce poids transmis de la Shoah. Alors, ça donne une teinture à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Tout est imprégné par ce vécu-là qu'on n'a pas connu, que je n'ai pas connu puisque je suis né après la guerre, mais qui a été celui de mes parents, mes grands-parents, comme tous les Ashkénazes d'Europe, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et comme d'ailleurs aussi les Séfarades d'Europe qui vivaient dans les Balkans, en Grèce, en Italie, etc. etc. Voilà.
Pour revenir à cette vocation que vous aviez depuis toujours d'écrire, d'être écrivain. Alors, cette judéité en lambeaux, en traces échappées à l'effacement, a constitué pour vous une inspiration, puisque vous avez, dès le début, eu cette écriture un petit peu lacunaire, avec des espaces. Et vous dites aussi que Rabbi Nachman de Breslev avait écrit un conte intitulé « Les sept mendiants » où il n'y avait pas de fin, ça ouvrait à vif sur l'abîme du temps. Eh bien, l'idée, c'était que lorsque le Messie viendrait, la fin de ce conte nous serait automatiquement délivrée. Vous, aussi, vous avez écrit aussi des contes où il y avait ces trous, cette écriture lacunaire a été la vôtre dès le début, dès le premier texte.
Tout à fait. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Dès le début, il y avait des trous dans mon récit. Alors, dès le premier livre même s'il n'y avait pas le mot juif qui figurait dedans, il y avait des trous dans le récit, des blancs. Et puis après, quand j'ai écrit, par exemple, les contes d'exil et d'oubli, qui sont de faux contes juifs ou de la filiation chassidique, mais reconstituée à ma façon, avec des interrogations sur de l'inconnaissable et de l'inconnu de ma part, parce que je n'ai pas vécu en Pologne avant la guerre, voilà. Donc je parle d'une Pologne que je n'ai pas connue et qui n'existe plus. Et j'aurais beau lire tous les livres, voir tous les films, écouter tous les témoignages, jamais je ne pourrais comprendre le mode de vie traditionnel de mes aïeux en Pologne. Hein. De même, d'ailleurs, pour la Shoah, c'est pareil. Quelqu'un qui n'est pas témoin, enfin, comment dire, quelqu'un qui n'est pas un survivant, ne peut rien comprendre. Voilà, on a beau lire les 10 000 livres qui existent sur le sujet, les films, etc., on n'y comprend rien. Enfin, on est hors de pouvoir témoigner de ça. Mais, comme je le disais tout à l'heure, tout juif européen qui naît juste après la guerre ou plus tard, la deuxième, troisième génération, même la quatrième génération, est imprégné de cette mémoire, même une mémoire silencieuse. Alors oui, quand dans les années 80 aussi, justement, j'ai découvert les contes d'abord les contes hassidiques traduits par Martin Buber, le philosophe allemand, enfin juif allemand, Elie Wiesel, célébration hassidique, et puis les contes de Yitzhak Leibusch Peretz, traduit par Joseph Gottfarstein, c'est paru dans les années 80 chez Albin Michel, traduit du yiddish et merveilleusement traduit du yiddish. Ça s'appelait Métamorphose d'une mélodie. Et je trouvais ça, je suis tombé, enfin comme quand j'ai découvert, je sais pas, Flaubert ou Proust, je suis tombé vraiment à la renverse tellement ça me... C'est pas que ça me semblait beau, littérairement, ça l'était, mais ça me parlait comme si je me disais, mais c'est ça que j'aurais dû écrire. Alors c'est pour ça que les contes d'exil et d'oubli que j'ai écrits en 79 sont un peu des contes comme ça, lacunaires à la mode, à la façon du conte chassidique. Et alors, en effet, Rabbi Nachman de Breslev, avec son fameux conte des sept mendiants, et on vous raconte l'histoire du premier mendiant, du deuxième, du troisième, du septième mendiant. Et puis le septième mendiant, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et alors, il nous dit, Rabbi Nachman, que c'est le Messie qui nous le dira. Je trouve ça magnifique. Et magnifique, pas seulement pour son sens spirituel, qui est sans doute profond, mais d'un point de vue littéraire, c'est une sorte de clin d'œil, d'éclat de rire, enfin, c'est un truc merveilleux. Et j'y suis d'autant plus sensible que ce que j'écris, de l'ordre de la mémoire, a trait à l'inconnu, à l'inconnaissable, aux non transmissibles. Donc c'est à ce que j'appelle la perte, et je parle souvent de la perte, je crois, dans mon livre Les Lucioles, c'est-à-dire que ma judéité relève de la perte. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai perdu. C'est un petit peu, d'ailleurs, la leçon d'Alain Finkielkraut, le juif imaginaire, vous vous souvenez,
oui.
Il dit, ce qui est juif, c'est ce qui me manque, enfin, ce que je n'ai pas, ce qui est perdu, etc. Ce qui n'est pas tout à fait, avec quoi je ne suis pas tout à fait d'accord non plus. Parce que moi, je ne parle que de moi. Je ne dis pas nous. Je dis ce qui est vrai pour moi. Tout le monde peut ne pas être d'accord. Et quelqu'un qui est un juif pratiquant, il ne dira jamais qu'un juif c'est de l'ordre de la perte ou du manque ou de l'imaginaire ou de... Non, pour lui, le judaïsme est quelque chose de vivant et d'incarné. Mais pour moi, ce n'est pas cela. Donc je ne dis pas nous. Je dis pas nous sommes comme ça, les juifs sont comme ça. Pas du tout. Moi, j'ai enseigné quelques années dans des écoles juives. Et ben, mes petits Marocains, mes petits Tunisiens, c'était pas des juifs imaginaires. Hein. C'était des juifs réels. Voilà. Les juifs sont réels. Mais il y a de la perte. Il y a de la perte dans l'exil. L'exil ou bien du Maghreb ou bien d'Europe orientale, il y a de la perte, quelque chose qui ne peut pas être transmis. Et puis les générations, alors pour les séfarades, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais ceux qui sont partis de Pologne, de Roumanie, etc., n'ont pas tellement apprécié de parler du monde d'où ils venaient, parce que c'était pas très très heureux. Il y avait du pogrom, il y avait de l'antisémitisme général, il y avait de la misère partout. C'est pas pour rien qu'ils ont quitté ces terres-là, hein, avant la guerre, quand ils ont eu la chance de partir avant la guerre. Mm-hmm. Par contre, je crois que par exemple, les juifs tunisiens parlent plus facilement de leur pays ensoleillé dont ils ont vraiment la nostalgie, Sidi Bou Saïd, la mer Méditerranée toute bleue, etc., le soleil, la plage. Bon, évidemment, la Pologne qu'on voit dans les photos de ce grand photographe qui a pris des photos de la Pologne juste avant la guerre en 1938. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on voit ? On voit de la neige, de la boue, de la misère, les gens habillés presque de loques, de haillons. Évidemment, on peut pas avoir la nostalgie de ça.
Ce voilà. Désir de transmission de la perte, mais c'est encore une transmission.
Et
oui, tout à fait. Le Baal Shem Tov, avec une histoire qui a été reprise par Gershom Scholem, Martin Buber et Elie Wiesel, raconte que lorsque le Baal Shem Tov avait une tâche difficile à accomplir, il se rendait à un certain endroit de la forêt, allumait un feu et se plongeait dans une prière silencieuse. Et ce qu'il avait à accomplir se réalisait. Et ceci se reproduisait quand une génération plus tard, le Maguid de Meseritch se trouvait confronté à une même tâche, il se rendait à ce même endroit dans la forêt et disait « Nous ne savons plus allumer le feu, mais nous savons encore dire la prière ». Et ce qu'il avait à accomplir se réalisait, etc., etc., etc.
Jusqu'à ce que la fin... De génération en génération, on oublie le lieu dans la forêt, on oublie la prière, on oublie toutes sortes de détails, de circonstances. Et à la fin, on ne sait plus rien. Mais, dit ce conte, cette fable, c'est une fable, on peut raconter cette histoire et l'effet est la même auprès de Dieu. C'est magnifique, c'est absolument magnifique parce que ça ouvre, ça réconcilie le religieux, le mystique et la littérature, ce qu'on appelle de façon profane la littérature. Raconter des histoires et l'histoire même de la perte, c'est encore conserver le lien avec l'être juif.
Et
d'ailleurs,
avec la vie.
Lévinas
oui.
dit la même chose.
Oui, oui. Lévinas qui dit s'interroger sur l'identité juive, c'est déjà l'avoir perdue. Mais c'est encore s'y tenir sans quoi on éviterait l'interrogatoire. Entre ce déjà et cet encore se dessine la limite tendue comme une corde raide sur laquelle s'aventure et se risque le judaïsme des juifs occidentaux.
Voilà, exactement. Et ça définit pas mal de gens aujourd'hui en Europe occidentale et aux États-Unis, d'ailleurs peut-être même en Israël après tout. Ça définissait des gens comme Kafka.
Oui.
Vers 1920, à Prague, lui qui se considérait comme un juif assimilé, lui et sa famille, et tous les bourgeois juifs de Prague, et il regrettait parce qu'il y avait encore des chassides ou des chassidim qui venaient en Occident, donc en Allemagne, en Autriche, dans l'Empire austro-hongrois, faire des cures thermales. Et donc, Kafka et ses amis voyaient ces chassidim avec leurs paillotes, enfin, leurs grands chapeaux, leurs lévites noires, etc. Et puis, ils avaient la nostalgie de ce monde comme ça, qu'ils ne comprenaient plus, que leurs propres parents avaient quitté. Et on était dans les années 1920. Donc, vous voyez, l'histoire se répète un peu entre la tradition et... Alors, sauf qu'aujourd'hui, le religieux a pris un caractère politique en Israël. Mmh. Et ça, ça pose problème, comme vous le savez, parce que tous les jours, notre actualité en témoigne.
Henri Ratzimov, revenir pour clore cet entretien passionnant avec vous concernant votre dernier livre paru aux éditions de l'Antilope, L'arrière-saison des Lucioles, parlez du yiddish. Cette langue, est-ce que vous l'avez maîtrisée, est-ce que vous l'avez connue par vos parents qui étaient eux-mêmes originaires de Pologne? Cette langue, qu'est-ce qu'elle vous a apporté comme génie linguistique au niveau des images, au niveau du sentiment, de l'émotion?
Alors c'est un peu compliqué quoi, c'est pas comment dire oui non j'ai eu la chance de connaître mes grands-parents maternels qui avaient survécu à la guerre, qui avaient perdu un fils en déportation qui s'appelait Henri, que j'ai un petit, enfin comment dire, je veux pas dire les choses de façon grossière, mais que j'ai quasiment remplacé, si vous voulez. Donc j'étais élevé tout enfant par mes grands-parents maternels, chez eux, à Belleville, et nous parlions yiddish. Donc le yiddish que je connais, que j'ai entendu, que j'ai même parlé, c'était un yiddish d'enfant dans un milieu populaire. Donc je ne connais pas le yiddish littéraire, le yiddish qu'on appelle Litvak, c'est-à-dire de Lituanie, qui a normalisé un petit peu le yiddish. Moi, c'est un yiddish populaire de gens très très simples, pas totalement illettrés, parce que mon grand-père lisait un journal yiddish, donc il savait lire en yiddish. Et ce qu'il y a, c'est que je n'ai jamais voulu l'apprendre, comme on peut l'apprendre, je suppose, à Strasbourg aussi. À Paris, il y a 10 ou 15 lieux où on peut apprendre le yiddish. J'aurais pu le faire, je pourrais le faire. Et pourtant, quelque chose en moi résiste. C'est-à-dire que je veux conserver ces bribes de yiddish qui me restent de mes grands-parents et telles que je l'entendais quand j'étais enfant.
Un yiddish lacunaire, encore une fois?
Oui, voilà. C'est une langue que j'ai perdue. C'est la langue perdue. Comme on dit à un enfant, t'as perdu ta langue. Eh bien, j'ai perdu ma langue. Et j'ai pas voulu la rattraper cette perte parce que ça aurait été un peu factice. Mais je ne parle encore une fois que de moi. Mon éditeur Gilles Rosier, lui-même a été longtemps professeur de yiddish et a dirigé la Maison de la Culture Yiddish à Paris. Donc il serait évidemment d'un avis différent puisque lui est passé par le yiddish, par l'apprentissage. Non, moi je me suis refusé Par contre, j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec mon ex-beau-père, Abbé Wiewiórka, et on a traduit ensemble quelques livres, Yiddish, Shalomach, Ozer Warshawski, etc. Et j'ai eu un très grand plaisir à faire ce travail en sa compagnie, puisqu'il était parfaitement yiddishophone.
Eh bien, Henri Ratzimov, je vous remercie beaucoup pour ce livre vraiment passionnant, L'arrière-saison des Lucioles, qui paraît aux éditions de l'Antilope, et espère avoir bientôt l'occasion de lire un autre texte de vous et d'en parler ici à l'antenne. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à bientôt. Au revoir. Strasbourg Pilote. Arts et lettres. Le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C. Solange. We'll be right back.